Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme vous tous, s'apprête à tourner la page des années 2010 et à se projeter à pleine balle dans une nouvelle décennie pleine, n'en doutons pas, de rires, de joie, d'émotions diverses, de films superbes, généreux, inattendus, de réalisateurs inspirés, talentueux, de projets ambitieux, mais aussi forcément de bouses sans nom, de franchises insipides, d'adaptations désastreuses, de remakes sans le moindre début d'une idée nouvelle et de faiseurs cyniques présentés comme l'avenir brillant d'un art dont ils sont pourtant les fossoyeurs. Une décennie donc qui ressemblera par bien des aspects à celle qui se termine et à laquelle cet épisode spécial est consacré. Avec la crème de ce glorieux podcast venu en nombre, puisqu'ils sont pas moins de 6, Daniel Andreev, Rafik Djoumi, Julien Dupuis, David Honora, Stéphane Moïsakis et Perrine Kenson. J'ai réussi à le dire sans tousser, c'est Nociné, épisode 214, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Alors, histoire que ce soit pas trop le bordel, et même si ça va l'être quand même sans aucun doute, on a décidé de rationaliser un peu les choses et de décréter de façon totalement arbitraire 8 catégories qu'on va balayer ensemble. Je vais le donner d'emblée, que vous sachiez, vous qui nous écoutez, à quoi vous attendre. On aura donc dans l'ordre le meilleur film de la décennie, le pire film de la décennie, la révélation de la décennie, qu'il s'agisse d'un réel, d'un acteur, d'une actrice, etc., etc. Le film le plus surcoté de la décennie, le plus gros fou rire de la décennie, le film qui aura le mieux incarné les années 2010, le moment le plus émouvant de la décennie cinéma, et enfin la meilleure mort de la décennie au cinéma. Évidemment, vous avez le droit et la possibilité de justifier ou non votre choix à chaque fois, assez brièvement, si possible, qu'on n'y passe pas toute la nuit. Et on va commencer sans coup faire rire par le meilleur film de la décennie. Mais je ne sais pas du tout qui va commencer. Tiens, Julien Dupuis, tiens.
Oh, oui.
Ah, pour une fois.
Je vais poser une règle.
Vas-y.
On va faire le tour à table comme ça. Et après, on repart dans le.
Alors, ça, c'est pas très radiophonique.
Ouais, voilà. J'en ai rien à foutre. Je vous explique à vous.
Voilà. Faire le tour de table comme ça, vous voyez.
Donc, on fait le tour de table d'abord dans le sens horaire, puis dans le sens anti-horaire.
Alors, faites le tour de votre table à vous pour. Voilà.
Vous pouvez déjà perdre du temps. On n'a même pas commencé à parler de cinéma. C'est incroyable. Julien, le meilleur film de dessin.
Ouais, alors moi, j'ai pas préparé, donc ça va être un peu à la Wall-là. Je vais dire n'importe quoi, puis j'aime pas. Moi, les classements, les trucs, les machins, ça me fait chier. Moi, les Oscars, tous ces conneries.
Non,
je vais mettre Happy Feet 2 en meilleur film de la décennie. Pourquoi je le mets? Parce que je sens qu'il va y avoir Fury Road partout et tout. Je vais le mettre parce qu'il est moins connu, parce que je pense qu'Happy Feet 2 fonctionne de façon assez en symbiose, en fait, finalement, avec Fury Road, ouais, sur plein d'aspects. Parce que je pense que c'est un film qui n'a pas été assez vu en salle, parce que je pense que, pour moi, en tout cas, c'était une expérience de cinéma en relief monumental, et je trouve que ça fait partie tout ce qui est... Je trouve que parmi les grandes problématiques de ces années 2010, il y a eu un côté extrêmement réactionnaire dans l'attitude vis-à-vis du cinéma. C'est-à-dire qu'on a fini les années 2000 avec Avatar, avec le retour des grands écrans, le retour du relief, la création fondamentale de ce qu'allait être le cinéma virtuel. Et tout ça a été, je suis en train de casser le matériel, mais tout ça a été un peu détricoté en fait durant les années 2010. Alors on voit bien, la 3D aujourd'hui n'a plus aucun poids. Il est de bon ton de dire que la 3D c'est dégueulasse. On préfère le pas le voir comme ça. IMAX a complètement dévoyé son parc de salles. Aujourd'hui, voir un film en IMAX, ça ne veut plus dire grand-chose, en fait. Il n'y a pas aucun des nouveaux formats qui ont été proposés n'ont réussi à faire école. Et donc, voilà, Happy Feet 2, c'était du cinéma virtuel en 3D, avec une 3D, mais à tomber par terre, une image de synthèse a tombé par terre, et encore une fois une vision, un spectacle incroyablement galvanisant et un spectacle qui restera à tout jamais en fait dans mon esprit. C'est moi le final avec la chanson de Queen et tout, je crois que c'est un des trucs les plus forts que j'ai vécu en tant que spectateur.
Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans dire brièvement, t'as pas compris, du coup?
De quoi?
Ça va, on peut plus se foutre de ta gueule.
D'accord.
T'es désagréable.
Je sais pas, j'ai pas compris cette blague, Thomas. Il faudrait que tu me l'expliques.
C'était un sous-entendu pour dire que c'était plus long que.
Ah,
que
putain, merde! Je serais plus court après.
Stéphane.
Mad Max Fury Road.
Ouais.
Parce que.
C'est pas
c'est
mal.
Bon pour toi.
Ouais, c'est bon.
Non, mais on en a parlé. C'est même quasiment le premier podcast No Ciné que j'ai fait avec toi.
Un des tout premiers.
Voilà, à l'époque. Et il y a une catégorie qui est le film qui représente le plus
Les
années 2010. Et bah, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, Mad Max Fury Road, c'est l'exception absolue. C'est même un film miraculeux. C'est-à-dire que c'est inconcevable qu'on puisse donner tant de pognon à un auteur. Alors certes, pour revenir dans son univers, hein, mais un univers qui n'a jamais rapporté le budget du film, quoi, enfin, même à l'époque, et qu'on lui laisse faire, enfin qu'on lui donne les coups des franches en fait, pour faire le film. Quoi. Et ce qui est miraculeux, ce n'est pas seulement en fait, la qualité du film en soi, mais c'est vraiment la réception aussi du film. C'est-à-dire que ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que c'est un film qui met absolument tout le monde d'accord, je pense de manière générale, sauf Julien Dupuis qui a voulu faire son intéressant. Ouais, son intéressant. Et voilà, mais même si Happy Feet 2 est un chef-d'œuvre aussi. Voilà, mais donc voilà, donc c'est bah, en fait, on a fait je sais pas combien de podcasts sur voilà, c'était l'évidence, c'est même dans toutes les catégories, c'est le truc qui est impossible à comment dire pour moi à nier quoi. C'est Mad Max Fury Road, c'est le film que j'ai le plus vu depuis sa sortie cette décennie.
C'est ton choix le plus aisé.
Voilà.
Perrine.
Pour moi, c'est La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Parce que
c'est Paolo Sorrentino.
Parce que c'est Paolo Sorrentino qui, pour moi, est déjà. Voilà, c'est tout. C'est Paolo, point. Mais le fait est que je pense que c'est un film qui est absolument brillant, déjà en termes de mise en scène, en termes d'histoire. Mais surtout, je trouve qu'il parle très bien aussi, un petit peu, pour le coup, un petit peu des années 2010, mais finalement de ce qu'on est. C'est à la fois cet environnement de la vulgarité, cette idée que tout est dans l'excès, tout est dans l'excessif, on se drape de matériel et de vulgaire, encore une fois, pour avoir la sensation d'exister, alors qu'en fait, finalement, il y a une quête de spiritualité très très forte, il y a une quête de sens, et une quête de savoir pourquoi on existe. C'est littéralement le 8,5 des années 2010, mais qui, pour moi, raconte le mieux, finalement, et notre époque, et ce qu'est du grand cinéma.
Très bien. Rafik.
Donc sans surprise, Mad Max Fury Road, évidemment.
Micro,
mais ce qui est intéressant, bon, déjà je remercie vraiment Julien d'avoir remis Happy Feet 2
sur les rails. Ça m'a fait plaisir.
Serviteur, comme il dirait.
Déjà parce que je vais complètement dans son sens sur la gémellité absolue entre Happy Feet 2 et Mad Max Fury Road. Mm-hmm. Et en même temps, je continue à m'étonner que ça ne soit pas évident pour tout le monde aujourd'hui, de dire que ces deux films-là sont vraiment... Je veux dire, quand on a, avant la sortie de Mad Max Fury Road, je me rappelle qu'on était déjà sur Internet, on s'amusait à faire des comparatifs de plans entre Happy Feet et Mad Max. Bon, ça, on savait à l'avance que ça allait dans cette direction. Mais aussi parce que il a rappelé ce que peut être le cinéma, et c'est peut-être aussi ce qui m'a manqué dans cette décennie-là, c'est qu'en général, les chefs-d'œuvre sont toujours des films qui nous disent le cinéma, ça peut aussi être ça. Il nous ouvre une porte sur... On ne savait pas que ce média pouvait se plier à cet exercice. Et c'est la seule fois où je l'ai ressenti vraiment dans la décennie, d'un film qui me dit je peux faire ça. Tu ne croyais pas que c'était possible ? Eh bien, ça l'est. Et faut se rappeler de ce qu'a été la réaction d'un nombre incalculable de cinéastes confirmés à l'époque de la sortie, les mecs étaient stupéfaits. Pas seulement parce que le film était sur un plan rythmique, musical, thématique, tout ce que tu veux, d'une perfection d'orfèvre, mais aussi, mais on peut. Enfin, vraiment, il y avait un côté, oui. Même chez les grands, même chez Edgar Wright, etc., il y avait un côté. Mais comment c'est possible ? Ça relève presque de la sorcellerie, ce qu'il a réussi à faire d'un point de vue. Et là, je parle vraiment artistique au sens profond du terme, c'est-à-dire de fabrication de la matière. Et c'est quelque chose qui a été... Là, pour le coup, je vais avoir un discours un peu réactionnaire, mais qui a été perdu, cette idée du cinéma en tant que fabrication. Quoi.
David ?
Ouais, pour moi, c'est une décennie... personnel, un peu de désenchantement vis-à-vis du cinéma, et j'ai
ça faisait trop de temps dans cette émission.
J'ai vu trop de mauvais films pour cette émission.
À cause de moi.
Et du coup, j'ai retenu en fait des films qui pour moi ont été des chocs au sens de me redonner foi dans le cinéma. Donc je savais que plusieurs de mes camarades allaient citer Mad Max Fury Road, que je mettrais aussi à ce niveau-là, mais du coup j'avais deux autres titres à citer. Il y en a un qui est pour moi un des...
Donc toi, tu dis le meilleur film,
j'en dis deux.
T'en dis trois, quoi, du coup. Tu me dis le film des copains, puis le mien, puis encore un autre.
J'ai le droit.
Il y a la Rocco après.
Il y en a un qui est pour moi vraiment le plus gros choc cinématographique de la décennie. Pour moi, c'est Un jour dans la vie de Billy Lynn d'Ang Lee. Qui est. Alors en plus, on en a parlé dans les émissions que je n'ai pas pu voir dans les conditions réelles de.
Mais tu vas pouvoir.
Et j'espère.
Tu vas pouvoir parce que voilà, vous avez l'exclusivité de l'information, mais on va faire un festival de la bonne 3D au Club de l'Étoile l'année prochaine. Génial. Et on est sur la piste d'une copie HFR de Billy Lynn.
Guettez
le programme, la programmation du Club de l'Étoile.
Je suis aux anges.
Ceci dit, on l'a vu avec Arnaud Bordas, donc c'est quand même des plutôt bonnes conditions, moi je trouve, pour voir.
Peut-être que Arnaud Bordas pourrait être là aussi.
On va le faire en France.
Cette projection, ça sera parfait. Et après, entre temps, il y a eu Jimmy Neiman cette année qui m'a donné pour la première fois la possibilité de voir le 120 images par seconde. Mmh. Donc je peux commencer à reconstruire dans mon cerveau à quoi peut ressembler réellement Un jour dans la vie de Billy Lynn, qui est pour moi vraiment un film très très important et qui m'a à la fois scotché, bouleversé au moment de sa découverte. Et un autre film, dans un genre, disons, plus classique, c'est La piel que habito de Pedro Almodovar, qui est une sorte de revisitation par Almodovar des yeux sans visage de Franju, avec une sorte de vibe à la De Palma qui a su me séduire particulièrement, et que je tiens comme un des plus grands films de la décennie.
Daniel, écoutez, je suis déjà fan de. Je suis entre deux gens de bon goût. J'adore tous les films que vous avez évoqués. La Pierre Cabito, je suis fan. Mad Max Fury Road, je suis très très fan. Et en fait, je pensais dire simplement Tree of Life, parce que c'est un film qui me parle énormément. C'est un film qui me parle au plus profond de mon cœur. C'est un film dont je me récite parfois les phrases dans ma tête, comme le héros se les récite en se disant que finalement tes parents, ils bataillent dans ta tête toute ta vie. Et finalement, j'ai décidé de ne pas prendre Tree of Life. Mais
ah ouais, donc vous faites tout ça en fait, du coup.
Et de prendre un autre film qui s'appelle Le goût des ramen, qui est sorti l'année dernière. Et Le goût des ramen, c'est un film réalisé par Eric Koo, qui m'avait déjà énormément marqué de la décennie précédente. Il avait fait un film qui s'appelle Be With Me. C'est un auteur singapourois. Et Eric Koo, son histoire, c'est l'histoire d'un jeune qui vient de perdre ses parents. Il vient de perdre son père. Et du coup, c'est un petit con, en fait. Il est un peu impétueux, il est à la recherche de lui-même, il est un peu existentialiste. Et du coup, il part sur les traces de sa famille à Singapour, puisque toute sa famille, il s'était mis à dos toute sa famille, évidemment.
Je me suis versé un verre d'eau, pardon, excusez-moi.
Comme tu sais, le Japon, Singapour n'était pas en...
Ils sont pas un très bon terme.
Voilà, lui, il est japonais et singapourois. Et du coup, il part à la recherche de ses racines. Et il refait la paix avec lui-même sur la voie de ses parents en faisant de la cuisine, en fait, en cherchant recherchant la saveur de ce que ses parents lui faisaient comme plat. Non seulement je trouve ça magnifique, non seulement je trouve ça super beau, je trouve ça extraordinairement profond sur ce que la nourriture nous dit de la générosité, de ce que ça apporte aux gens. Et surtout, plus important encore, c'est ce que ça m'évoque du reflet de moi-même et de ce que je m'identifie complètement à ce personnage. Et du coup, c'est pour ça que je pense que Le goût des ramen est mon film.
La saveur des ramen est mon film de la décennie.
Voilà. Eric Koo qui avait fait Tatsumi, sorti en 2011, qui est excellent d'ailleurs.
Voilà. Extraordinaire biopic.
C'est le bordel. Tout le monde se permet de prendre le micro. Je t'ai pas donné la parole.
Ça peut être vivant aussi.
Non, il y a des règles. Il y a des règles. D'ailleurs, une des règles étant qu'on repart dans l'autre sens avec le pire film de la décennie. Et c'est toujours Daniel qui parle.
Alors, je vais être très bref.
Ouais.
Parce que je sais que t'aimes que j'en sois bref. Et je vais en dire trois, mais juste. Et tu vas deviner le réalisateur.
Non, mais vous êtes relou.
Tu vas deviner le réalisateur. Man of Steel, Sucker Punch, Batman v Superman.
Ok, Zack Snyder.
À toi, David.
Très bon choix. Non, alors moi, le pire film de la décennie, c'est The Lost Face de Sean Penn, qui est un film qui avait été en compétition à Cannes.
Exact.
Apparemment, sans que Thierry Frémaux en ait vu le montage final, mais il l'a choisi par. Il le dit en plus dans son bouquin. Il l'a mis en compétition par amitié pour Sean Penn. Et c'est un film d'une obscénité, mais comme on en a rarement vu, et qui est une sorte d'histoire d'amour avec Javier Bardem, Charlize Theron et Adèle Exarchopoulos sur fond de mission humanitaire en Afrique. C'est extraordinaire. C'est vraiment
de malaise.
De malaise de A à Z.
Après, peut-être préciser que Sean Penn a quand même fait deux grands films. Hein.
Bah pas celui-là.
Ouais, alors le coup, ils n'ont pas vu celui-là apparemment, mais c'est quand même le mec qui a fait Indian Runner et The Pledge avec Jack Nicholson, c'est un super beau film. Quoi.
Quand il avait encore un peu d'humanité.
Oui, voilà.
Todd Phillips a fait des beaux films.
Non,
c'est faux.
Il a bien fait un aussi beau film que The Hangover, je suis désolé. Rafik.
Alors, mon pire film de la décennie n'est pas en soi le pire film de la décennie, c'est juste une petite crotte, mais c'est ce qu'il a représenté en fait.
Mais ça, c'est le film qui représente les années 2010.
Non, ce qu'il a représenté de mauvais.
De mauvais. Très bien. Okay.
Non, il s'agit d'Avengers, le premier, donc de 2012.
C'est le premier film dont on a parlé dans.
On l'a découvert en projection de presse, donc avant qu'il ne déboule. Sur les écrans, et durant le film, j'étais absolument totalement convaincu que tout le monde allait trouver ça normalement à chier. Ça m'a pas traversé l'esprit que les gens puissent apprécier sincèrement. Et quand à la fin de la projection, je me suis levé, j'ai vu les visages en fait dans la salle des gens qui étaient authentiquement et sincèrement ravis du spectacle qu'ils avaient vécu. Là, je me suis dit, on a un gros problème. Et je pense que les années suivantes n'ont fait que suivre ce sentiment que j'ai eu, qu'il s'était passé quelque chose, le public était disposé à accueillir une certaine forme de blockbuster qui a été lancé avec celui-ci et qui a mené à toute cette vague dont nos ciné s'est fait une spécialité.
Tout à fait, dans la joie et la bonne humeur et la décontraction. Perrine Kenson. Ton pire film de la décennie.
C'est pas non plus le pire film en soi. Il y avait tout un tas de films que j'aurais pu citer, comme United Passion, qui est vraiment un de mes préférés, film fait pour l'UFA, absolument extraordinairement mauvais. Mais c'était facile de taper sur ça. Donc l'idée, c'était plutôt de prendre un film qui, pareil, c'est ce qu'il a créé derrière qui m'embête. C'est Interstellar de Christopher Nolan.
Ah, waouh!
J'aime pas du tout le film, mais ça, après, ça c'est dans mon goût à moi. Mais surtout, ça m'inquiète un peu que ce film-là soit considéré comme l'un des plus grands films jamais faits de tous les temps, parce que je trouve que c'est que de la posture en permanence. Déjà, la musique, elle est trop forte de Hans Zimmer, c'est de la vraie posture. Je trouve que ça c'est un cinéma. Tu parlais tout à l'heure d'une décennie de désenchantement. Pour moi, c'est un cinéma de la non-émotion totale, c'est-à-dire du soi-disant pur intellect, sauf que ce n'est pas intellectuel du tout. C'est un film, c'est un épisode de C'est pas sorcier, en beaucoup moins bien, en beaucoup moins fun et en beaucoup moins intéressant.
Sans jaloux.
Donc, non, j'aime pas du tout l'idée que d'un seul coup, ça devienne le maître étalon de ce que doit être du cinéma de blockbuster ou de grand spectacle. Si c'est ça, ça m'inquiète un peu.
Très bien. Stéphane.
Rafik m'a piqué mon pire film de la... C'est pas grave. Hein.
C'était tout l'idée de sachez ceux qui nous écoutent que vous n'avez pas partagé vos listes
en
avant.
En fait, on peut discuter... ouais, voilà.
Non, on n'a pas le temps.
On peut discuter effectivement sur les pires films. Tu vois, on en a fait plein dans nos ciné. On a fait La Momie, on a fait le reboot d'Hellboy. Il y a plein de merdes en fait, qui sont sorties, ça c'est clair. Mais en fait, il n'y en a aucune qui a déjà eu cet impact. Et surtout qui, pour moi, en fait... alors, là où je ne suis pas d'accord avec Rafik, j'ai pas le même rappel en fait. Je ne me rappelle pas de la même manière, le même souvenir en fait, de la projection de presse. C'est comme les gens étaient morts de rire pendant tout le film, je me suis dit, ah, c'est un problème. Parce qu'en fait, ça plaît, et moi, le problème, c'est quand je regardais ce truc-là, je ne comprenais pas, en fait, les gags. C'est-à-dire, j'étais vraiment en train de regarder un film où je me disais, quand Hulk balance une patate à Thor, tu vois, après avoir défoncé une créature, tu vois, je me rappelle m'être tourné, j'étais avec Arnaud Bordas, et je me tourne, je me dis, pourquoi ? Et en fait, c'est surtout... Tout le monde avait l'air d'avoir compris, et pas moi, en fait, puisque tout le monde était mort de rire. Et du coup, il y a cette logique, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi un film représentatif, en fait, des années 2010, mais cette logique de désacralisation du mythe, qui est quand même un peu ce que fait, en général, ce réalisateur absolument abject que je ne supporte pas, qui est Joss Whedon. Et cette désacralisation du mythe, en fait, qui là, en fait, a pris des proportions. C'est-à-dire que non seulement on savait que t'as plus besoin d'être un bon shooter, en fait, pour faire un blockbuster qui cartonne, t'as plus besoin, en fait, d'avoir quelque chose à raconter, parce que globalement, c'est quand même une heure et demie de mecs qui sont dans un vaisseau spatial et les 45 minutes où ils se tabassent dans New York. T'as plus besoin de tout ça. Et surtout, enfin voilà, c'est un film qui a donné le là en fait pour dire le blueprint en fait pour dire voilà Marvel c'est censé être ça maintenant. Et on a chié sur Marvel en fait depuis maintenant quelques années. Mais à la base Marvel, enfin quand tu lis les comic books, c'est magnifique, c'est superbe, c'est la nouvelle mythologie actuelle. Donc je veux dire c'est ça qui me désole complètement avec ce film là quoi. Et donc Donc oui, on peut effectivement se dire que c'est pas forcément le pire film de la décennie, mais moi si, c'est quand même le pire film de la décennie.
Avec le Joker, d'après toi.
Il le garde pour tout à l'heure. Avec, Julien.
Avec je suis désolé, ça fait un peu penser unique, mais j'ai envie de dire Avengers aussi. Encore une fois, par le film, j'ai passé des beaucoup plus mauvais moments, moi, au cinéma que devant Avengers. Hein, mais pour ce que, encore une fois, ce que le film a représenté, ce qu'il a initié dans les grands studios, et tout ce qui, toute la merde qui a découlé, c'est-à-dire même des trucs comme La Momie, tout ce qui s'est passé à Godzilla 2, tout ça. Et aussi, donc, cette posture par rapport aux matériaux, c'est-à-dire cette façon de satisfaire les réseaux sociaux, parce que ça a manifestement une place très importante en fait dans les diktats des studios aujourd'hui, et en même temps sans en avoir l'air, sans avoir l'air d'y toucher. C'est-à-dire que je pense que moi je prête pas, pour moi Joss Whedon c'est pas le grand diable incarné, mais je pense que c'est un petit malin, et je pense qu'il y a eu un truc dans cette posture de petit malin qui lui a permis de se sortir d'un truc qui scénaristiquement était hyper compliqué. Je veux dire, tout le monde, moi je me souviens avant Avengers, on avait écrit des trucs sur ça, et je crois que c'était même Robert Downey Jr. qui avait dit là ça va être chaud quoi, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Il avait expliqué, il dit bon, si tu fais un film sur Iron Man ça va, Captain America tu comprends, Thor ça va, mais si tu mélanges tout ça va être le bordel, ça va être dur quoi de faire avaler ça. Et ben moi quand j'avais vu le truc je me disais ah oui, en fait ils sont fous, en fait il fait avaler avec trois blagues, et puis et effectivement tout le monde qui était mort de rire et tout, et où je me suis dit putain, si tu sacrifies tout à la blague comme ça, qu'est-ce qui reste au final? Et puis voilà, on voit ce qu'a généré en fait ce film de merde ensuite quoi. Et alors du coup j'avais un autre truc dans un autre spectre. Hein,
toujours pas brièvement quoi du coup.
Non mais je suis désolé, mais je vais passer vite pour le coup. Mais
Avengers 2,
non mais un film en fait.
Mon cul, je vais passer vite.
Un vrai film de merde dont personne ne se souvient, mais qui pour moi est finalement quelque part étendard de tous les dysfonctionnements d'Hollywood aujourd'hui, qui est la nouvelle version de Ben-Hur de Timur Bekmambetov. Voilà, je pense je pense que tout le monde a à peu près oublié en fait que ce film épouvantable existait. Voilà.
La fin est géniale.
Où les mecs se disent bon bah on peut reprendre le film de William Wheeler, et là où tu te dis bon ben il n'y a plus de sacré, par contre il y a cette recherche frénétique de la franchise qui a bien défini cette vilaine décennie de cinéma.
Très bien, formidable. Tu gardes la parole du coup, t'as à peu près 18 secondes pour me donner ta révélation de la décennie.
Mais j'en ai pas en fait, j'en ai pas trop. J'ai gardé David O. Russell parce que c'est un mec que je suivais de loin, j'avais bien aimé Les Rois du Désert, mais pour moi dans les années 2010, pour le coup le mec il m'a soufflé et plus d'une fois quoi. Ouais. Il a commencé avec Fighter, Happiness Therapy, moi j'avais été complètement soufflé, American Bluff, tout ça, moi je trouve qu'il y a un truc...
Joy,
c'était super aussi, voilà. Et lui, je trouve, voilà, je me suis dit, mais il sort d'où d'un seul coup. Je me suis dit, ah putain, il peut faire ça, ce mec, c'est incroyable. Et quand même Damien Chazelle, c'est-à-dire que moi, il y a ce mec Chazelle, je sais pas où il va aller, mais les trois films qu'il a fait pour l'instant, j'ai quand même l'impression de voir qu'il y a un mec là qui est en train d'arriver, qui me propose des choses qui m'ont à chaque fois quand même vraiment emporté avec des propositions très fortes. Et voilà. Stéphane, j'ai fait court, hein, putain.
Pas mal. Je te remercie, Julien.
Moi, j'ai exactement le même problème, parce qu'en général, une révélation, c'est un réalisateur, les acteurs, je sais pas que j'aime pas des acteurs, hein, mais je pense qu'en fait, ils sont tributaires un peu de ce qu'on leur propose aussi de faire, et, alors que le réal est censé plus ou moins, en tout cas, pour moi, ceux qui comptent, est plus ou moins censé driver sa carrière autant qu'il le peut, quoi. Y a pas un Edgar Wright comme dans les années 2000, pour moi, par exemple. Du coup, en fait, je vais me concentrer sur une actrice qui, en fait, malheureusement, n'a pas fait de bons films, en vrai, dans sa carrière, qui a été révélée dans Saturday Night Live, qui est Kate McKinnon, que j'adore, en fait, que je trouve absolument brillante, parce qu'elle a vraiment ce truc en fait des plus grands personnages du Saturday Night Live, qui est complètement tarée.
Ouais.
Vraiment, elle est complètement folle.
Ouais,
ça se voit en fait, et du coup, elle en joue complètement. Elle est pour moi une bouée de sauvetage dans le SNL des années 2010, parce que c'est devenu pour moi une catastrophe depuis au moins 3-4 ans, le SNL. Ouais, vraiment, enfin, c'est irregardable tellement en fait ils font plus du, enfin, c'est même plus de l'humour à ce stade-là, c'est juste de la parodie d'un truc d'avant. Et si je devais retenir un film dans lequel elle apparaît, le film est mauvais, très mauvais, mais elle en fait elle s'en sort vraiment plutôt bien, c'est le SOS Fantôme, le reboot féminin, voilà, où elle arrive plus ou moins à maintenir son grain de folie dans un film totalement voilà, donc voilà, Kate McKinnon, mais j'espère qu'un jour quelqu'un va lui filer un vrai rôle avec un vrai film.
Perrine.
Si, elle est très bien dans Yesterday de Richard Curtis, mais je relancerai pas le débat. Pareil, j'étais un peu embêtée, je savais pas trop. Donc j'en ai un peu deux, mais je vais aller très vite. J'ai Xavier Dolan, c'est-à-dire que je trouve que c'est très fort que ce garçon, en 10 ans, a réussi à se faire remarquer, repérer, adorer. de, mis en doute, détesté en l'espace de 10 ans, à même pas atteint 30 ans. Oui. Je trouve qu'il a, en soi, c'est cette espèce de comète étoile filante du cinéma, qui a été une vraie promesse de cinéma à un moment donné, puis finalement un peu agacé tout le monde. Je trouve qu'il est assez fascinant pour ça. Et sinon, c'est plutôt une actrice que je mettrai en avant, c'est Saoirse Ronan. Saoirse Ronan, qu'on avait découvert dans les années 2000 dans Reviens-moi, mais dans les années 2010, elle a vraiment étendu. On l'a retrouvée notamment chez Peter Jackson, on l'a retrouvée dans beaucoup de films. Et elle a une palette de jeux et une capacité parfois comique, mais surtout d'émotion, que je trouve que c'est la plus grande actrice actuelle, c'est Saoirse Ronan.
Rafik.
Alors, ma révélation, en fait, il a commencé en 2007, mais pour moi, il s'est révélé en 2012.
Mec triche un peu, quoi.
Bah, oui, mais parce
que... Mais t'as le droit, Rafik, t'as le droit.
Ceci dit, Saoirse Ronan, elle a commencé avant aussi.
Je l'ai dit.
Il s'agit de l'espagnol Juan Antonio Bayona, donc il avait fait L'Orphelinat en 2007. Mais pour moi, L'Orphelinat était un film, on va dire, d'excellence. Juste où on pouvait se dire, quand même, c'est un premier long métrage. C'est impressionnant pour un premier long métrage d'arriver à ce niveau-là. Mais avec The Impossible, il est monté directement au niveau Spielberg. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, mais je n'avais pas réalisé à l'époque de L'Orphelinat qu'il avait ce potentiel de grâce inouïe, en fait, hein, qui confirmait à mes yeux par quelques secondes.
Après minuit, auquel nous avons consacré un épisode.
Donc je n'attends plus que ces films à lui, quand il ne va pas se perdre dans des franchises que je ne citerai pas.
Très bien, David.
Moi, la révélation que j'ai trouvée, elle est russe. C'est un réalisateur, Kantemir Balagov, qui a réalisé deux films pour le moment. Son premier, qui s'appelle Tesnota, m'avait complètement... scotché, j'étais rentré dans la salle, il était présenté à Un certain regard à Cannes sans savoir rien d'autre que le titre. Et c'est vraiment la découverte d'un cinéaste qui a un sens du cadre et du récit que je trouve exceptionnel. C'est un très jeune cinéaste, il a pas encore 30 ans. Et puis c'est un élève de avec Tatou, j'ai oublié le nom, un élève de Sokourov, mais qui pour moi est extrêmement prometteur et qui peut faire partie des très très grands dans les années à venir.
Daniel. Daniel, est-ce que tu as soufflé la réponse à David ?
Non, pas du tout. Au contraire, David est parfait. Moi, j'ai.
Il s'est endormi.
Non, mais.
Ça va, Daniel ?
En fait, je vais faire un.
Un petit café ?
Non, mais pareil, je fais un trio. Je vais vite. C'est trois acteurs et actrices qui ont été marqués par le saut des grandes franchises. Et qui ont survécu à ces grandes franchises, à mon avis, c'est-à-dire qu'on les a vus et dans les Marvel et dans les Star Wars et tout ce que tu veux. Adam Driver, extraordinaire acteur, pour moi c'est un des acteurs les plus importants de cette décennie. Quel que soit le projet sur lequel il est, je le regarde, je sais qu'il sera bien. J'ai confiance en son acting et c'est un acteur de théâtre. La scène de chanson dans Marriage Story, je trouve ça brillant. Michael B. Jordan, pure physicalité, je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Évidemment, je peux faire comme vous, on l'a vu dans The Wire, mais il avait 12 ans. Et là, il confirme quand même, après le temps, qu'il peut survivre à des franchises. Mmh. Il a survécu, il survit à tout, quoi. Enfin, Adam Driver, il a survécu, littéralement. Et puis, le dernier acteur auquel je pensais, c'était Lupita Nyong'o. Qui est quand même extraordinaire, et je pense à elle notamment dans Us, qui est un film, on peut en penser ce qu'on veut, mais dans Us, elle a une telle physicalité dans le rôle, elle a un truc qui me parle complètement, qui me glace le sang. Elle joue à la fois donc
elle-même et son doppelganger,
et elle est extraordinaire là-dedans, et je pense que ça va être une actrice à suivre. Et donc du coup, de facto, Jordan Peele, je suis curieux de ce qu'il va faire. C'est un réalisateur qui m'interpelle. Je trouve pas tout ce qu'il fait parfait, mais par contre ça m'intéresse, son univers m'intéresse. Et je pense dans cette décennie il y a David Robert Mitchell qui
donc, est à 5 en fait, du
voilà
coup.
D'un coup,
mec, ouais, plus,
mais, tu sais quoi, c'est intéressant aussi de voir ces gens qu'on va suivre encore dans le prochaine décennie, et qui vont.
Ces gens qui savent pas choisir un truc quand on a envie de choisir un truc. Quoi.
Mais comment choisir entre un réalisateur,
je m'en fous,
un acteur, une actrice?
Tu te démerdes, c'est ton boulot, c'est pas le mien. Garde la parole, Daniel, pour nous donner ton film le plus surcoté de la décennie.
Je vais être très bref.
Vas-y.
Birdman et Black Swan, voilà.
Donc t'en as encore deux, quoi.
Ouais, mais.
J'ai décidé de m'emmerder.
En une phrase. Voilà.
Il y a même la même thématique, un oiseau, tout ça.
Ouais, sans commentaire.
Voilà. Avec les oiseaux. David.
Alors moi, sur le film le plus surcoté de la décennie, alors moi je suis assez d'accord avec ce que disait tout à l'heure Julien sur Damien Chazelle, le fait qu'il est extrêmement prometteur, et j'ai beaucoup aimé son premier et son troisième film. En revanche, je trouve que La La Land à la fois a été extrêmement surcoté et est assez symptomatique d'un des problèmes du rapport au cinéma de cette décennie. Et je mets ce film un petit peu dans le même panier que des films comme Drive ou Le Joker, qui sont en fait des carnets de tendances et des émanations d'une certaine cinéphilie qu'une vraie réussite. Avec les deux films auquel je compare, je pense qu'il est meilleur que les deux autres, mais je pense qu'il a été aussi plus surcoté.
Rafik.
David a cité le mien, puisqu'il s'agit de Drive, en l'occurrence, pour rester sur Ryan Gosling. Voilà, où pendant un an, je devais me frayer un chemin dans mes réseaux sociaux entre les posts consacrés au film. En plus, arriver à un âge canonique, comme tu le sais.
Bien sûr.
Où tu as appris à repérer un peu ces films-là. Tu sais que ces films-là, un an et demi, deux ans après, vont commencer à partir un peu en poussière, quoi. Et ça a été, pour les gens qui l'auraient oublié, le plus grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma pendant 6 ou 7 mois à peu près.
C'est pas mal, c'est plus que certains pour le coup.
Je suis la tendance Drive, en fait.
Et
comme quoi c'est beau, parce qu'on grandit. Moi j'étais à fond dans Drive en 2011, mais à fond. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis le fait est qu'en effet, quand il a fallu que je repense, le film n'est arrivé que très tardivement dans ma tête. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, il existe. Et je me souviens de l'engouement démentiel qu'il y avait autour de Drive et dont je faisais partie. Je m'auto-flagelle au passage.
De reconnaître qu'on évolue.
Et surtout, plus que Drive, en fait. C'est-à-dire, c'est le mec qui va avec, c'est Nicolas Winding Refn. Et lui, en termes de surcotage,
Il est le premier à se surcoter.
On est dans des sommets de surcotage.
On recommande à ce titre son interview de William Friedkin sur les bonus de Sorcerer, je crois que c'est ça, ce qui est extraordinaire.
Mais juste, je peux plus ce gars, en fait. Donc, c'est-à-dire que Drive, ça faisait encore l'illusion que, c'est pas mal, franchement. Et là, après, depuis, il y a sa connerie, là, Too Old, Too Die Young, il y a tous ces trucs-là, c'est pas possible. Donc, le point de départ, mais le vrai surcotage, je sais pas si ça existe comme mot, la vraie surcote, c'est Nicolas Winding Refn. On arrête Nicolas Winding Refn, on arrête maintenant.
Tu arrêtes, Nicolas. Stéphane.
En fait, le problème avec les films surcotés, c'est que moi j'ai tendance à les oublier, puisque en fait, si je les considère comme surcotés, en fait, j'ai du mal à comprendre le truc. Donc, du coup, je pourrais m'arrêter, on est déjà tapé sur Marvel, sur Black Panther par exemple, tu vois, rien à foutre aux Oscars par exemple, ce genre de choses, mais en fait, et c'est pas un troll, je suis désolé, voilà, mais pour moi, le film le plus surcoté de la décennie, parce que je m'en rappelle encore, parce que je l'ai vu il y a 3 mois, c'est Joker, quoi. Et c'est pas pour troller les gens qui sont pas contents, en fait, dans les commentaires, c'est juste,
ça peut faire plaisir du plaisir, partie du plaisir.
C'est
la saveur du moment.
En toute honnêteté, je peux chercher plein de raisons pour lesquelles les gens aiment ce film, en fait, mais elles sont absolument pas cinématographiques.
Oui.
Et c'est ce qui fait que pour moi, en fait, c'est un film qui est surcoté. C'est-à-dire que je mettrai ma main à couper, il y a peut-être quelqu'un qui va venir me la couper, que ce film, dans 5-10 ans, mais personne ne se rappellera que ça avait fait cet engouement absolument dingue. Mmh. On dira oui, ça a fait 1 milliard, on dira oui, il y avait tous ces trucs-là, mais pour moi, c'est inconcevable que ce film ne laisse autre chose qu'une trace de pneu dans l'histoire du cinéma, quoi. C'est pas possible. Donc le truc, c'est que bon, voilà, après on dira oui, il y a machin qui joue super bien, mais c'est pareil, c'est ce qu'on disait, en fait. Un bon acteur, quand il a un rôle de merde, c'est un rôle de merde, quoi. Donc voilà, donc c'est Joker.
Ok, Julien.
Moi, j'ai du mal à réfléchir juste en termes de film, donc je vais me limiter à 3 réalisateurs. Et je n'ai plus... Non, mais parce que je suis parti de la pensée unique aussi. Donc je vais dire Nicolas Winding Refn. Ça, c'est clairement un mec.
C'est le seul qui le prononce bien, vous remarquez, ça pète.
On dit Refn, non ?
Je sais pas, il dit Refn.
Je sais plus, je m'en fous de toute façon de ce mec.
Et là, il est à moitié suédois.
Denis Villeneuve et Zack Snyder.
Blade Runner 2049, c'est vrai que c'était pas mal.
On
l'a oublié, du coup.
Et Zack Snyder, qui en plus, c'est des mecs qui, moins Denis Villeneuve, mais qui sont quand même assez explosés, en fait, en l'espace d'une décennie, quoi. Voilà.
Très bien, t'as fait super court. J'ai été pris
je vais me faire engueuler encore.
J'étais pris à rebours.
Il a tout copié sur moi.
Il a tout copié sur Daniel. Le plus gros fou rire de la décennie, Julien Dupuis.
Je crois que je vais prendre la séquence post-générique d'un des chefs-d'œuvre de la décennie, un des rares que j'ai vu, qui est Vice Versa.
Ouais.
Voilà. Et puis un petit mot quand même pour 9 mois ferme de.
Mec, incapable de citer mois. Un seul.
Non,
truc.
Non, non,
mais j'aime ça, c'est maladif.
De Dupontel, parce que Dupontel, ouais. Je trouve qu'il a, il a pas mal brillé pour cette décennie. Voilà.
Stéphane.
Alors, si tu te rappelles, on avait enregistré un podcast il y a quelques temps, enfin, c'était au début de nos ciné, donc en 2016, sur un film qui est encore complètement oublié.
Tu veux dire le même que le mien.
Qui est complètement oublié par tout le monde, je pense, parce que la plupart des gens ne l'ont pas vu, quoi.
Je sais de quoi tu vas parler.
Qui est ouais, c'est celui-là. Non, est-ce que David me montre le titre en fait, sur son papier?
Et je c'est tous déjà, du coup.
Grimsby, agent, oui. Je sais plus quoi, agent trop spécial. Voilà. Oui, oui. Avec cette scène absolument incroyable, où j'ai le souvenir, je l'ai vu avec Julien et un autre pote qui s'appelle Gab.
Tu la racontes juste parce que j'ai eu un fou rire pendant
l'enregistrement. Non, 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 mais c'est vraiment une scène, à chaque fois que je la revois, je suis mort de rire.
On en a pleuré, hein, c'est
et,
clair.
Et faut quand même la raconter vite fait.
Non,
si. Bah si, parce que les gens vont pas savoir.
L'anus d'éléphant.
Non, c'est pas un anus.
C'est un vagin d'éléphant.
Voilà, en fait, c'est, comment il s'appelle, Sacha Baron Cohen et son frère, en fait, j'en oublie son nom aussi, l'acteur là, qui doivent
Mark
se planquer.
Strong.
Mark Strong, merci. Qui doivent se planquer en fait parce qu'ils sont poursuivis et qui se planquent dans la savane africaine et ils se planquent en fait dans un utérus d'éléphant. Bon, ça c'est déjà tu te dis ok, donc ça va pas, tu vois. Et en fait, le truc c'est que t'as un éléphant, une fois que tout le monde est passé, t'as un éléphant qui arrive et qui baise donc l'éléphante et eux ils sont dedans et tu te dis bon. Voilà, tu vois, c'est classique, tu vois, normal. Et là, en fait, t'as Louis Leterrier, que j'aime beaucoup, qui est un mec absolument adorable et tout. Je n'aurais jamais cru qu'il serait allé jusque-là. Il te filme le tout de l'intérieur avec une bite énorme qui leur pète la gueule et tout. Enfin, c'était un fou rire.
Qui va jusqu'au bout.
C'est avec clair. Mon pote Gab et tout, on n'en pouvait plus, mais on avait des larmes aux yeux. Et à chaque fois que je revois cette scène, je suis. Mais explosé. Alors, c'est pas du Lubitsch.
Ah non.
Mais, tu vois, c'est.
Je rebondis là-dessus.
Et tu mets du gris la place non, de tout le monde.
Parce que j'ai choisi la même
scène. Et alors
Bon, d'accord. Bah, on reviendra là-dessus tout à
l'heure. Bah voilà pour non, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel
ouais, donc, il faut quand même voir le film. Hein,
faut voir le film.
C'est un film qui s'est complètement planté et que personne connaît.
C'est une catastrophe. Voilà,
ceux qui l'ont vu s'en rappellent, c'est gravé dans leur mémoire. La preuve, oui. Perrine, elle était là en train de. Elle avait les flashs et tout, quoi.
Perrine a fait un malaise. Perrine.
C'est très dur d'enchaîner après les utérus d'éléphants et les gros pénis d'éléphants, mais moi, c'est pas une séquence en particulier, c'est tout Problemos d'Éric Judor, qui me fait littéralement chialer de rire, que je trouve d'une méchanceté sans nom, qui a un vrai message plutôt intéressant, pour le coup, assez nihiliste, mais et peut-être en particulier la chanson de Blanche Gardin sur « J'aime mes règles », que je trouve absolument... je la chanterai pas là, mais c'est une problémos, ça fait du bien, ça purge, ça fait du bien.
Rafik.
Merci Eric Judor.
Alors, on a souvent l'habitude d'avoir des fous rires devant des films qu'on n'apprécie pas, de ridicule, on va dire. Il arrive aussi que ce soit des films qui soient ridicules et qu'en même temps, on adore. Ça a été mon cas avec Gods of Egypt, où j'ai commencé par sourire. Et plus le film avançait, et plus ça s'est transformé en rire, jusqu'au fou rire, c'est-à-dire vraiment avec les larmes. Je trouve que c'est un moment de joie absolue et totale.
C'est vrai. David.
Alors moi, donc c'est un film, ça s'appelle Grimsby, agent trop spécial.
Il faut
que je vous décrive la scène. Par moult détails. Non mais alors sans blague, moi je suis allé voir ce film suite à l'écoute du podcast, parce que je l'avais pas vu.
Faudrait écouter le podcast, parce que Thomas, il est mort de rire, alors qu'il a pas vu le film, et je suis en train de lui raconter.
C'est merveilleux, et donc ça m'a donné envie d'aller le voir, et ce qui était génial, c'est qu'il y avait très peu de gens en fait, dans la salle, et que la moitié de la salle est partie pendant cette scène. Et moi, j'étais écroulé sous mon siège, et les gens partent. Et je voulais juste parler d'un truc là-dessus sur les fous rires de la décennie, c'est que j'ai pas eu beaucoup de fous rires au cinéma, et en fait, je trouve que la grande qualité de la comédie, notamment de la comédie américaine, s'est déportée vers la télé. Et pendant cette décennie, bah, j'ai pris des fous rires sur VIP, sur Silicon Valley, sur Broad City, sur Louis. Mmh. En France, Platane m'a donné quelques fous rires également que j'ai découvert récemment en fait en rattrapant pour la saison 3. Et voilà. Et je trouve que les grandes comédies ont un peu manqué dans cette décennie.
Daniel.
Alors moi, je regarde les grandes comédies des décennies. C'est
je crois qu'on a un extrait.
La comédie, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc vous m'avez volé les Jacques Face d'éléphant. Moi, je peux vous opposer la flûte dans le cul de Kev Adams, qui est aussi un événement marquant de l'humour. C'est dans Aladdin.
Ouais,
Aladdin avec un à la fin.
Que Daniel voit tous ces films-là.
Mais, oui, c'est vrai que je les vois, mais
on a tendance à l'oublier.
Mais pour moi, le plus important, c'est quand même celui dont vous allez écouter un extrait.
Je vois que vous avez des appareils électroniques. Il va falloir les essayer ici, les amis.
Allez, ma chérie, t'en as pas besoin.
Non,
Margot, tu donnes ça. Non, tu lâches ça. Non. Merde.
Allez, viens faire un bisou.
Éric Judor qui fait merde, qui résonne dans toute la vallée. C'est Problemos. Et Problemos, ouais, c'est vraiment.
T'assumes pas, t'aurais pu citer les Visiteurs 3. Hein.
Les Visiteurs 3, j'ai rigolé. Mais les Visiteurs
3. Pour le coup, si je puis me permettre une note personnelle, c'est un de mes plus grands souvenirs d'enregistrement de nos cinémas.
Ah ouais.
C'est Daniel Andreev qui arrive, 42 fièvres. Il avait eu des petits problèmes de santé juste avant, mais il me dit je viens quand même. Je lui dis t'es sûr? Ouais, je viens quand même, il faut que j'en parle. Il était livide, les yeux écarquillés. On aurait dit qu'il avait fait la guerre. Et il m'a raconté pendant un quart d'heure le film, et l'enregistrement est hallucinant. Hallucinant.
C'est vrai, c'est dans les archives maintenant.
C'est du PTSD et en direct.
Alors que tu sais que le truc le plus drôle, parce qu'il y a un moment drôle dans Les Visiteurs 3, c'est le moment où on voit le drapeau nazi, en fait, oui. De loin. Et en fait, je me suis dit, mais gournais. Et à ce moment-là, j'ai vraiment rigolé.
Enfin, tu te dis ça pendant tout le film. Hein.
Ah, alors non, c'est vraiment la fin seulement, parce que sinon, tu rigoles pas.
Je me dis où on est pendant tout le film. Hein.
Daniel garde la main pour nous donner le film qui aura le mieux incarné les années 2010.
Bah, c'est compliqué, le film c'est vraiment le truc le plus compliqué, parce que qu'est-ce qui incarne les années 2010? On n'a pas le recul encore, et est-ce qu'on prend un film du début des années 2010? Est-ce qu'on prend un film de la fin? Et donc j'ai choisi de prendre un film de la fin, et pour moi, ce film, c'est Parasite, parce que Parasite, c'est un film
Bong Joon-ho,
extraordinaire, une palme, putain, c'est mérité, on a des séries de palmes assez méritées, en fait, d'affilée, hein. on rigole beaucoup sur Cannes, mais en fait parfois, il y a de la jugeote. Parasite, c'est le retour de Bong Joon-ho au sommet de son art. Bong Joon-ho, c'est un des réalisateurs les plus importants de la décennie précédente. Je veux dire, c'est un des rares qui peut mettre quand même 3 films dans les top 10. Facile, entre Memories of Murder, Mother, The Host. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un réalisateur extraordinaire. Quand il a un passage à vide, même quand il a un passage à vide, ses films sont intéressants. Ils sont passionnants. Et je pense qu'avoir des réalisateurs comme ça, c'est vraiment inespéré. C'est un mec quand même qui... Enfin, je veux dire, il a lancé toute la vague coréenne. C'est grâce à lui qu'on revient à des films de genre, mais qui sont en même temps des films très complexes, qui sont des films qu'on peut décortiquer. Parasite, c'est un film dont on reparlera encore pendant 10 ans, parce que les gens vont l'analyser. C'est un film extraordinaire. Et si vous n'avez pas encore vu Parasite, allez-y.
David ?
Oui, alors pour moi, il y a un film qui a préfiguré, enfin qui arrive au début de la décennie et qui l'a un peu préfiguré et que je trouve quasi parfait en tout point, c'est The Social Network de Fincher, qui à la fois dans ce que est scénarisé par Aaron Sorkin, enfin je pense sa contribution est pas du tout négligeable au film, et qui à la fois en fait dans ce qu'il raconte et dans la manière dont il raconte, vraiment enfin anticipé toute la manière dont la technologie en fait a investi y compris nos relations intimes et en fait l'essentiel de notre manière de fonctionner ensemble. Et rapidement, un deuxième film qui est arrivé à la fin de la décennie et qui l'incarne également d'une autre manière, pour moi c'est Ready Player One, qui à la fois raconte d'un point de vue un peu supérieur entre guillemets l'évolution du cinéma pendant cette décennie et aussi de la même manière notre rapport à la technologie, notre rapport à la fiction. Voilà, pour moi, c'est ces deux films qui font la parenthèse parfaite pour raconter ce qu'ont été les années 2010.
Rafik, après, alors, en plus, tu vas devoir nous quitter.
Oui,
c'est triste.
Ça sera ma dernière.
Rafik décède, on fera une émission hommage.
Le mieux incarné les années 2010, pour moi, je l'ai pris comme le film dans lequel les gens se reconnaîtront. Par rapport à ces années-là. Si on devait expliquer à quelqu'un qui n'est pas de ces années à quoi ressemblaient les années 2010, on pourrait lui montrer ce film-là. Je choisirais Vice Versa parce que pour moi, il parle très très bien et avec délicatesse de, déjà de, du repli qu'on a tous vécu justement pour, sous l'influence des réseaux sociaux, de toute cette technologie qui nous entoure et tout ça, un repli qui peut être vide mais aussi qui peut être chargé d'une nouvelle forme d'aventure qui est d'essayer d'un peu mieux se comprendre et de savoir qui on est réellement à l'intérieur. Et j'ai l'impression qu'effectivement, en tout cas dans le monde occidental, les gens s'identifient assez facilement aux personnages qui sont mis en scène dans ce film-là par rapport à leurs préoccupations et à leur façon d'aborder simplement d'aborder la vie, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être, en fait. Voilà. Donc, pour moi, c'est un film qui incarne bien cette décennie.
Merci, Rafik. Est-ce que tu veux nous donner, avant de partir, ton moment le plus émouvant et ta meilleure mort ?
Bah, alors, mon moment le plus émouvant, je chiale rien que d'y penser, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, le film de Juan Antonio Bayona, donc quelques minutes après minuit.
Tout à fait.
La scène qui, bon, je pense, fait chialer à peu près 99% des spectateurs, enfin sauf Adolf Hitler, mais tous les autres.
Même lui.
Hitler et moi.
Il
avait une
mère. Hitler et moi. La scène entre Sigourney Weaver et son petit-fils dans la voiture, et qui est, je pense, aussi la raison pour laquelle la critique française a complètement descendu ce film absolument indispensable et inoubliable.
Et ta meilleure mort, t'en vas pas, la meilleure mort.
C'était le troisième Batman, il est sorti quand?
Le dernier Batman
2012,
je pense qu'on avait la meilleure mort de tous.
De Marion Cotillard.
Bah oui,
Marion Cotillard. Ok, bien sûr. Ouais, évidemment. Merci beaucoup, Rafik Djoumi. Merci d'être venu. Perrine Kenson, on en revient à ce film qui aurait le mieux incarné les années 2010.
Justement, tout à l'heure, Stéphane, tu disais, pour moi, ça ne peut pas être ça. C'est Mad Max Fury Road, pour moi, qui l'incarne le mieux des années 2010, parce que il est dans cette... C'est un film qui est dans le spectaculaire, absolument, dans la vitesse, qui aborde des thématiques qui sont très 2010, c'est-à-dire la thématique notamment du féminisme, la thématique de l'écologie, qui sont vraiment des choses qui ont traversé, qui sont nées plus ou moins dans les années 2010, qui ont pris une ampleur incroyable. Il y a déjà tout dans Mad Max Fury Road, sauf que Mad Max fait tout mieux que tout le monde, et donc c'est pour ça que, non seulement pour moi, il incarne tout à fait les années 2010, ce qu'elles doivent être, ce qu'elles voulaient être et ce qu'elles, sur quoi elles réfléchissent, mais en le faisant mieux que tout le monde, en étant le vrai maître étalon de ces années-là.
Stéphane ?
Alors, moi, malheureusement, je ne vois pas du tout les années 2010 comme un havre de créativité. Donc du coup, le film qui est le plus représentatif pour moi des années 2010, c'est le film le plus, de toute évidence, le plus, en fait... pas pompé, mais en tout cas, voilà, enfin représentatif, c'est Star Wars épisode 7, quoi. C'est-à-dire vraiment un film où t'es censé... Moi, je suis né en 76, donc je
m'intéresse... La vache, t'es super vieux.
Je m'intéresse au cinéma dans les années 80, 90, 2000, et il y en a eu d'autres, hein, des décennies à chier dans l'histoire du cinéma, mais c'est la première que je vis vraiment, en fait, qui est une décennie à chier, avec quelques grands films, hein, dedans, mais c'est vraiment une décennie à chier. Et en fait, c'est à cause de films comme, justement, Star Wars épisode 7, c'est-à-dire que... après, on peut considérer que c'est sympa, qu'on a passé un bon moment, etc., etc., etc. Bon, si on veut, quoi. Moi, j'ai pas du tout de problème avec ce genre de logique, mais pour moi, en fait, ce qui est problématique avec ce film-là, c'est qu'on te resserre quelque chose que moi, j'ai déjà vécu, en l'occurrence, et que je pense que beaucoup de gens qui ont apprécié le film ont déjà vécu, avec le goût actuel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc, c'est-à-dire que on peut pas te proposer, en fait, un film qui aura pas d'effets spéciaux numériques ou de machin, etc., etc., comme ça pouvait être le cas pour en tout cas le premier Star Wars, à part 2-3 passages. Mais ils le font quand même. Et du coup, en fait, il y a cette espèce de notion qui est que on pourrait croire que c'est un film des années 70-80, tel qu'il a été présenté, puisqu'il est voulu, en fait, dans cette conception-là. Et en fait, non, c'est un film qui est extraordinairement ancré dans sa période, parce qu'il n'y a que dans cette période-là qu'on le ferait vraiment comme ça, qu'il démontre exactement l'inverse de ce dont parle David avec Ready Player One, justement, mais j'y viendrai plus tard, en fait, sur le film. Et donc voilà, c'est un film qui est problématique pour moi et qui, comme Avengers, en fait, pour d'autres raisons, a lancé une espèce d'onde de choc, en fait, pour dire, voilà, c'est ça qu'il faut suivre pour que les spectateurs viennent. C'est-à-dire que pour que ce film il fasse ce carton-là, et que il y a autant de satisfaction au moment où ça soit sorti et qu'en fait tout le monde perde cette saveur entre guillemets jusqu'à aujourd'hui, en fait, être peu satisfait par la façon dont on boucle la trilogie, parce que c'est quand même beaucoup plus mitigé qu'à l'époque. Voilà, c'était un film, tu pouvais pas le taper dessus, hein, en tout cas dans les trois premières semaines de sa sortie,
non, c'était
quoi.
Compliqué.
Voilà, et donc voilà, pour moi, ça c'est un film qui est représentatif, mais c'est parce que je pense que je vois vraiment le truc du mauvais côté de la lorgnette,
voilà, de la serrure.
Ouais. C'est une question très compliquée pour ça. Ouais, non, c'est une question pour moi qui est très compliquée parce que je sais pas trop ce qu'on entendait en fait par là. Disons que si
et t'attends le jour de l'enregistrement pour me le dire.
Non, mais si on entend parce que ce qui a été culturellement les 2010, je suis à 300% d'accord avec David Honora, c'est-à-dire que le Social Network et puis Ready Player One, oui, c'est parfait. Enfin, je trouve que même il faudrait faire une étude comparative des deux films pour voir comment ils dialoguent et ils se répondent. Quoi, il y a quelque chose. Et après, de façon très intime, je m'épancherai du coup pas dessus, il y a Gravity et Claude Atlas qui représentent parfaitement ce qu'a été cette décennie de merde pour moi.
Très bien, c'est une belle manière de le dire.
Voilà, mais pas totalement de merde, mais voilà, mais de merde aussi.
Le moment le plus émouvant.
Du coup, je vais rester sur Claude Atlas, qui est le monologue en fait de Somni 451 à la fin, qui me fait pleurer à chaque fois, et qui pour moi en plus Claude Atlas, c'est un film qui a été hyper important en fait sur cette décennie.
Stéphane.
Ouais, moi il y a quelques trucs, hein, je me permets parce que je sais pas, j'ai cité qu'un seul film à chaque fois, plus ou moins.
Notamment dans Grimsby.
Donc tu dis que tu vas faire mal, parce qu'il n'y a pas
énormément de films. Et à la fin, celui que je vais garder, c'est pas forcément celui qui est le plus émouvant, mais c'est celui qui peut-être me touche le plus. Il y a effectivement Monster Calls dont tu as parlé, Rafik. Il y a Ready Player One qui est la scène finale en fait dans le grenier. Parce qu'en fait c'est une scène qui t'invite à te rappeler justement en fait en écho à ce que je disais tout à l'heure de pourquoi t'as aimé en fait une certaine culture à une certaine époque et pourquoi t'as besoin en fait de t'aimer toi pour grandir à travers cette culture et l'oublier, enfin pas l'oublier mais en tout cas la chérir comme une partie de toi et non pas avoir besoin de la retrouver à chaque fois en fait comme un espèce de placebo, et c'est ce que c'est Star Wars épisode 7, un film placebo, et ça je trouve ça hyper touchant en fait, hyper beau en fait de voir ça, mais la scène en fait que je retiendrai, qui est encore une fois pas forcément la scène la plus émouvante mais qui m'a vraiment cueilli dans ce film là en fait à ce moment là c'est la scène finale en fait, le poème final en fait du Territoire des Loups en fait, et le moment où Liam Neeson, le personnage de Liam Neeson qui donc c'est un survival, le film va en fait se confronter à la nature en fait, à la créature entre guillemets mythologique qui est le loup, se rappeler d'un poème de son père en fait, que son père lui citait quand il était sur ses genoux en fait, quand il était enfant quoi, et qui est un poème en fait sur l'idée de combattre en fait, c'est-à-dire l'idée de tenir coûte que coûte face à la vie en fait, face à la nature, face à tout ça, et que le film se termine en fait, et je spoil, hein, je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu quoi, que le film se termine sur un statu quo, c'est-à-dire que ne pas savoir en fait qui a gagné entre le loup et Liam Neeson, parce que c'est pas ce qui est important, ça donne encore plus de résonance en fait à ce poème là quoi. Et du coup, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, que j'adore vraiment, qui a plein de problèmes ici et là, en fait, parce que c'est un film dont ça se voit qu'ils avaient un budget limité, que, voilà, etc., etc., mais qui emporte complètement tout sur son passage, en fait, à ce moment-là, en fait, avec ce final-là, quoi.
Périne.
J'en ai deux aussi, mais qui sont sur une
du coup, tout le monde s'excuse de dire l'ordre, je suis désolé, j'en ai deux.
C'est deux moments qui sont en fait la fin d'un moment, la fin d'une période, la fin d'une, plus que d'une époque, mais vraiment d'un moment. Il y a la mort de Bing Bong dans Vice Versa, qui est la fin de l'enfance, la fin, l'idée de on grandit, on passe à une autre étape de sa vie, et puis bon, bah voilà, ça pète le cœur, quoi. Enfin, Bing Bong qui disparaît comme ça. Et la toute fin de Anomalisa de Charlie Kaufman et Duke Johnson.
Auquel nous avions consacré un épisode.
Et à la fin de ce film, le personnage qui était parti en séminaire, vivait une possibilité, il entrevoyait une autre vie, quelque chose qu'il pouvait faire. Il avait un moment dans sa vie et il rentre chez lui, il est avec cette espèce de marionnette qu'il a entre les mains qu'il veut offrir. Et il regarde ça et il se voit lui, en fait, cette idée de devoir faire l'acte, de devoir refaire semblant. De devoir rejouer un rôle dans lequel il l'est et qu'il n'a pas saisi la chance d'en sortir et de revenir dans sa vie, dans son quotidien, et avec le cœur brisé totalement. Et Marie dit pas d'en parler, moi j'ai le cœur brisé de voir ça. C'est un très 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 grand film anomalisant, on n'en parle pas assez.
C'est vrai, on en avait dit d'ailleurs dans ce podcast. Ce podcast, c'est comme ça qu'on dit, je crois. David.
Alors moi j'ai eu plusieurs moments.
18. Ouais.
Non mais
18. Pas beaucoup 18.
Je vais en citer qu'un seul.
Ok.
Mais je dis que j'en ai eu plusieurs qui sont des moments très précis, des scènes spécifiques et en fait j'ai retenu un film qui m'a fait un effet vraiment vraiment très spécial et très très puissant. C'est un film qui n'avait pas trop été vu, qui est un film de Nicole Olofssener qui s'appelle en français All About Albert, et le titre original c'est In Of Said, et qui met en scène en fait deux personnages divorcés un peu un peu revenus de tout et qui vont, par leur relation, dépasser un peu les problèmes qu'ils ont eus dans leur vie. Et ils sont incarnés par, selon moi, les deux plus grands acteurs de l'histoire récente de la télé américaine, James Gandolfini et Julia Louis-Dreyfus. Et James Gandolfini était mort quelques semaines oui. avant la sortie du film. Et en fait, il y a une scène où il s'assoit sur les marches devant la maison, qui est la scène qui a été utilisée pour faire l'affiche du film. Et à partir de cette scène, je me suis effondré en larmes. Je recommande par ailleurs tous les films de Nicole Holofcener, qui est assez méconnue en France et qui est une réalisatrice qui fait un cinéma qui est un peu dans la veine des meilleurs films intimistes de Woody Allen. Et elle arrive à saisir quelque chose de l'intimité de ces personnages que je trouve extraordinaire. Et ce film m'avait bouleversé.
Moi, mon moment le plus bouleversant de l'enregistrement de nos ciné, c'était quand on avait parlé de Roma et qu'il y a eu un moment où David Honora a eu la voix de David Honora s'est étranglée en parlant d'une scène. Ouais. Et ça m'avait bouleversé. Je tenais à le dire à ce micro. Merci, merci pour tout. Daniel.
Ah, maintenant que tu me parles de Roma, ça me remonte là. D'abord, j'ai appris avec tristesse que j'étais Hitler parce que j'étais pas ému par le film de Bayona. Mais écoute, c'est pas grave. Écoute,
merde.
J'assumerai cette proximité. Et aussi une autre chose, par contre, je suis.
Hitler a beaucoup aimé Victor 3. Hein.
Par contre.
Et alors, tu fais bien de le dire, tu fais bien de le ramener. J'ai parlé de Saverne et Ramen qui déjà m'a bouleversé. Tue of Life, rien que le trailer de Tue of Life me fout en sanglots. Et en même temps, je me suis fait voler ma reco que j'avais été inscrite, puisque moi je voulais parler de ce moment émouvant. Moi, c'est The Grey, donc le territoire des loups, et je te rejoins complètement en fait. C'est-à-dire que moi j'y suis allé comme un gros bourrin en me disant ouais, ça va être Liam Neeson qui va se taper contre des loups, et en fait, c'est pas du tout ça le film. C'est un problème existentiel. C'est des hommes pris dans la neige et qui vont mourir les uns après les autres, et c'est justement ça l'affrontement. C'est qu'est-ce qui reste de ta vie, qu'est-ce qui reste de ton affrontement. C'est un film sur le deuil, c'est un film magnifique. Et du coup, je suis bouleversé à chaque fois par The Grey, à chaque fois que j'y pense. Quoi. Et
voilà.
Ouais.
Putain.
On checkera en sortant.
Juste pour dire, pour un film récent et qui est presque dans une reco, Marriage Story.
Bien sûr.
Et Marriage Story, il y a cette scène où Adam Driver est dans un bar, il est entouré de tous ses amis, donc tu vois, normalement, c'est la bonne ambiance. Et en plus, la scène d'avant, il y a sa femme qui chante, et elle, c'est une autre salade, elle est plus joyeuse. Et là, il chante cette chanson Being Live, qui est une chanson qui vient d'une comédie musicale des années 70, et qui se rapporte évidemment, c'est un reflet sur sa propre vie, puisque le personnage se rend compte que la vie en couple, ça vaut le coup d'être vécu. Enfin, tu vois, il y a tout un ressenti. Et moi, j'aime pas les morceaux musicaux dans les films. Film. Alors, je te dis, Frozen 2, j'ai eu du mal. Et là, tout d'un coup, Adam Driver, il me chante un truc sur la vie, sur l'existence et sur ses aspirations de la vie. Et il le chante devant ses amis avec le lâcher prise complet. Et moi, ça me bouleverse complètement. Je m'attendais pas à être fauché comme ça à la fin de l'année par un film.
On fait notre dernier tour de table en attaquant la meilleure mort de la décennie au cinéma, et c'est Daniel qui commence.
Je vais en faire qu'une.
Ah.
Et je vais en faire qu'une. C'est la plus importante, c'est celle de cette année, parce qu'il fallait en prendre une représentative. Et je pense qu'on ne parle pas assez des grands films à nos ciné, et donc c'est un film qui s'appelle Alien Crystal Palace. Un film réalisé par Ariel Dombal. C'est la scène de la mort d'Ariel Dombal. Et alors, je recommande à tout le monde, c'est direct ou Nanarland. C'est un chef-d'œuvre du nanar et cosmogonique, puisque c'est un film qui est quand même une vaste branlette entre Ariel Dombal et Nicolas Kerr.
Nicolas Kerr, le chanteur de Pony Hawks.
Voilà.
Exact,
et le moment où Nicolas Kerr découvre que Ariel est morte, il fait. Je sais plus comment il s'appelle, Céleste. Je vais dire Céleste. Il va dire Céleste, non. C'est aussi nul que ça. Il se trouve, je sais pas où ils sont, au Maroc, dans un sous-marin, poursuivi par des policiers en combinaison lycra noir avec la typo police en lettres gothiques. Rien n'a de sens. Il y a des Égyptiens, genre il y a des pharaons, ça n'a aucun sens. Et honnêtement, cette mort résume tout le film, c'est-à-dire ça n'a aucun sens et c'est un chef-d'œuvre du nanar. Voilà, je vous recommande
ça a l'air hyper bien.
Alien Crystal Palace.
Moi, je suis chaud.
Direct to DVX, mon gars.
Très bien, très bien. David.
Moi, j'ai retenu deux morts qui sont en miroir. Une dont on a déjà parlé, c'est la mort de Bing Bong dans Vice Versa, qui est en fait une mort sacrificielle. Il se sacrifie pour qu'elle puisse sortir de cette mauvaise passe. Et qui fait écho à un autre grand film de la décennie, c'est la mort de George Clooney, qui se laisse aller dans l'espace, dans Gravity. Et voilà, qui sont deux scènes qui en plus renvoient à une autre scène de Mission to Mars, dont on a déjà parlé dans des épisodes de nos ciné. Et voilà, en fait, quand on s'attache aux personnages, on peut être touché par leur mort, ce qui est un problème, par exemple, avec Star Wars. On en parlait dans un autre épisode, vous aurez la ref.
De toute façon, ils ne peuvent pas mourir. Perrine Kenson.
Moi, c'est dans Hérédité de Ari Aster. Parce qu'il y a cette.
Mort par décapitation.
Voilà, il y a cette idée un peu à la Hitchcockienne, c'est-à-dire d'un personnage qu'on pense depuis le début qui va être le personnage central, et hop, au milieu du film, on nous le désingue. Mais c'est surtout la manière dont on nous le désingue, c'est-à-dire on est dans une voiture, on est à l'avant de la voiture, la gamine sort la tête, et on ne voit rien, on entend juste un bruit sourd. Et là, le gamin a juste le temps de rentrer chez lui. Et moi, je n'ai plus respiré à partir du moment du bruit sourd parce que je me doutais. Et tout ça, ça dure mais bien 5, 6 longues minutes avant qu'on... Puis là, il y a un plan dégueulasse sur la tête.
Alors que c'est des règles de sécurité basiques.
Basique.
Je ne sors pas la tête.
Mais je me souviens d'avoir entendu le bruit sourd et d'avoir fait un petit... Et de plus avoir respiré pendant quasiment 6 minutes, record d'apnée personnelle très très fort. Mais non, c'était ça m'a interloqué et j'étais très contente de voir ça. Non, pas de voir ça, mais
j'ai trouvé que c'était une scène cool, très réussie
en termes de mise en scène de mort.
C'est une scène traumatisante, effectivement. Stéphane.
Bon, alors là, le problème, c'est qu'en fait, cette je me suis vraiment posé la question de qu'est-ce qui fait une bonne scène de mort, en fait. Et du coup, mine de rien, comme on est dans une décennie assez pauvre, on va dire, y compris en films risqués, c'est difficile d'en trouver une. Voilà, il y a un film qu'on n'a pas cité, que j'aurais pu citer dans les scènes émotionnelles, en fait, parce que j'ai envie de faire une petite citation, c'est Pacific Rim, notamment la scène de Tokyo. Dans les scènes émotionnelles, c'est aussi une des scènes, voilà. Et il y a la scène d'un caillou qui se fait défoncer, en fait, à bout portant, avec un bras mécanique qui est absolument génial. Il y a aussi, j'ai envie de faire une petite note sur, je vais spoiler, je suis désolé, la toute fin du dernier Rambo, là, où il ouvre littéralement le cœur d'un mec et lui arrache, en fait, pour lui montrer, en lui disant, voilà ce que tu m'as fait, quoi. Ce qui est absolument, comment dire, tellement Z et en même temps complètement couillu, parce qu'il faut faire confiance à Stallone pour désinguer des enculés, quoi. Mais en fait, je vais citer, en fait, excuse-moi, c'est quand même un enculé, hein, le mec. Et en fait, bref. Et donc, en fait, le vrai truc, c'est la scène finale de Once Upon a Time in Hollywood. Il faut aussi faire confiance à Tarantino pour défoncer des gens dans ses films. Et cette scène où lance-flammes. En fait, vis-à-vis des voilà, je vais pas spoiler parce que Julien l'a pas vu. Voilà, donc
on
voilà.
Bouche les oreilles d'ailleurs.
Et en fait, tu te bouches les oreilles. Ouais. Bon alors. Et en fait, du coup, cette scène, je trouve absolument, absolument géniale parce qu'en fait, c'est plus ou moins Tarantino qui est en train d'expliquer que toute la violence dont on l'a reproché, je l'avais dit dans un dossier, je crois, quand on a enregistré.
il en rajoute. Ouais,
c'est Tarantino en fait qui explique aux gens non, la violence c'est cool, j'en fais ce que je veux et c'est ma violence qui bute les vraies personnes, en fait, les vrais criminels, quoi. Voilà, donc il y a un sens derrière et elle est plutôt cool, quoi.
C'est bon, Julien, on a fini.
Moi, j'aurais pu citer Roma parce qu'on n'a pas parlé de Roma. Pour moi, c'est un des grands films de l'année.
Voilà. Roma, moi.
De la décennie, pardon. Mais en fait, j'en citais deux autres parce que. Non, attends, mais j'allais vite, Thomas, je suis désolé. Mais déjà, parce que c'est une décennie où on a eu du mal à faire. C'était l'éternel retour, cette décennie. Et il y a un film qui est dédié à la mort d'un personnage que je trouve très beau et en plus un personnage de la culture pop et tout, qui est Logan. Un personnage, il meurt définitivement, il meurt de belle façon. Et il y a une autre mort, moi, qui m'a marqué, parce que j'aime bien quand les personnages meurent, mais que ça a une signification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un sacrifice, mais il y a une constitution définitive du personnage à travers sa mort. C'est pas juste un sacrifice ou un truc comme ça. Et qu'il y a un film que j'aime beaucoup, c'est pas le plus grand film de la décennie, mais c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est Dernier Train pour Busan. Et je vais pas spoiler, mais il y a une mort à la fin d'un personnage majeure du film. Une mort en plus inattendue dans la façon dont elle va se produire et dont elle va se réaliser, qui est en plus un jeu sur un personnage iconique du fantastique et qui dit tout en fait du personnage et de comment il va se réaliser, comment il va se racheter. Voilà.
C'était très beau. Merci à tous d'avoir participé à cette émission récapitulative de la décennie de cinéma que nous avons vécu en grande partie via ce podcast, puisque ça fait désormais 5 ans qu'il existe. Ça va faire 5 ans qu'il existe. 2020, année particulière pour nos ciné. J'en profite pour le dire, parce qu'il reste quelques épisodes encore au mois de janvier. Il va y avoir quelques épisodes, puis le podcast va se mettre en pause, en hibernation, quelques temps. Le temps de revenir encore plus fort, évidemment. Donc merci à tous d'avoir participé à cet épisode spécial. Merci à Solène, à la technique. Solène, beaucoup
merci
de courage. Beaucoup de courage, Solène.
Merci, Solène.
Libérez-moi, il y a marqué.
Merci, Solène.
Et merci à Mathieu qui réalise cet épisode aussi. Binge pour audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, Thomas.
Merci, Thomas.
Merci à vous.
Thomas. Meilleurs vœux.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.